Chapitre 11e. Georges de Solis, en quittant la villa, était sorti un peu au hasard par les rues vides. Machinalement, il allait vers la plage, indifférent au bariolage gai des toilettes claires et des parasols rayés, faisant sur le sable des taches joyeuses. Il suivait les planches en songeant encore à ce qu'il venait de dire, à ce qu'il avait osé dire à Sylvia. Moralement, il l'étouffait. Son existence s'était bornée jusqu'ici à des devoirs et à un amour. Il n'avait pas usé sa passion en la banalisant, en l'émiettant en caprice. Cet amour intact, il le voulait absolu, et il se faisait l'effet d'un sauveur en venant arracher cette femme à une prison lourde, à une mort certaine. Fuir avec elle, oui, puisque sa destinée était d'errer, et que l'univers lui ouvrait ses infinis. Mais Madame de Solis, la mère, mais Richard Norton, le mari, il écartait violemment leur image. Il ne voulait voir que Sylvia. Il ne voulait penser qu'à elle. C'était une fièvre qui lui montait au cerveau, l'aveuglant sur tout ce qui n'était pas Sylvia, sur tout ce qui n'était pas son amour. Il erra ainsi pendant un certain temps, s'arrêtant machinalement devant le tir, hypnotisé en apparence par ses cartons troués, en réalité n'apercevant rien que sa propre pensée. Il rentra alors, dîna avec la marquise, qui le trouva préoccupé, nerveux, puis, contre son habitude, il sortit la nuit venue. « Es-tu souffrant ?» lui demanda Madame de Solis, comme il allait s'éloigner. « Non, pourquoi ?»« Tu es pâle, tu as l'air triste. »« Je ne suis pas triste, je suis un peu nerveux. » Cette chaleur lourde me fatigue. Le bord de la mer me fera du bien. » Il était agité, visiblement. Il n'avait qu'une pensée, réaliser cette folie dont il avait parlé à Sylvia comme d'un rêve. Une fuite en 1891, un enlèvement comme en plein romantisme, cela lui semblait assez étrange, presque ironique et peu fin de siècle. Mais les explorateurs et les chercheurs d'inconnus sont peut-être les derniers romantiques. Ce danger bravé, ce départ brusque et fou lui plaisait. Mais comment partir et quand? Puis, le voulait-elle bien? Il l'avait senti trembler sous ses paroles, frémir d'une tentation de liberté et d'amour. Elle l'aimait encore, et c'est parce qu'il avait eu la sensation de cet amour demeuré fidèle et partagé qu'il trouvait en lui l'audace de cet acte insensé, la rupture avec le monde et la fuite vers le hasard. Mais aurait-elle la même témérité que lui? Une réflexion ne l'arrêterait-elle pas brusquement en chemin? Il était entré presque inconsciemment au casino, ayant pour s'étourdir comme un besoin de bruit. La foule était grande, on dansait. Dans la salle des petits chevaux, des joueurs se donnaient l'illusion de la roulette. En allant de la salle de bal à la salle de jeu, M. de Solis se heurta presque contre la belle Arabella Dixon qui passait au bras de son père. La foule, instinctivement, s'écartait devant l'admirable fille et le gigantesque Américain au poil roux. Gontran de Bernière venait derrière, causant avec un monsieur très pur, très correct, très épinglé, cravaté de blanc, un gardénia à la boutonnière, et qui était le peintre Harrison, Edward Harrison, le premier mari de Mrs. Montgomery. Un artiste à tenue de diplomate, chauve du reste avec des favoris interminables. Arabella, en apercevant M. de Solis, laissa échapper un « ah » de satisfaction. Elle s'arrêta, lui tendant la main. Elle était délicieuse avec ses cheveux colorés relevés sur la nuque, un petit chapeau marin en paille blanche posé dessus, jupe et veston blanc, un déshabillé très habillé, le veston moulant comme avec des caresses la taille et les hanches. « Monsieur de Solis, dit-elle, on vous a regretté à la Villa Norton ce soir. »« Très regretté, dit le colonel. » Charmante la surprise partie organisée par Mrs. Montgomery. « Oh, elle s'entend aux petites fêtes, Mrs. Montgomery, n'est-ce pas, Monsieur Harrison ?»«
Elle s'y entend, » répondit flegmatiquement le premier mari.
« J'avais, » ajouta Arabella en souriant, « espéré vous voir, Monsieur de Solis. »«
Je sors très peu, mademoiselle. » C'est par hasard que je suis ici. »
Le colonel hocha la tête, sa tête si haut perchée, et caressant sa longue barbe.
Oh, vous sortez très peu. Vous ne venez pas souvent au casino, mais... »
Il s'arrêta, le regard de M. de Solis lui ordonnant de se taire.
Toute la révolte de Georges contre la calomnie montait dans ce regard violemment impératif, et le marquis saisit même, avec une sorte de brusquerie ardente, l'occasion que lui offrait cette rencontre.
« J'ai précisément un mot à vous dire, colonel. »«
Volontiers, mon cher marquis. »«
Oh, cela seul, » fit Solis. « Vous permettez, mademoiselle. »
Arabella sourit.
« Monsieur de Bernière me servira de cavalier, » dit-elle.
Le colonel, avec flegme, caressait toujours sa longue barbe. Georges l'attira dans un coin de la salle où de bons bourgeois prenaient le chaud sur des fauteuils.
« Monsieur, » dit le jeune homme en allant droit au but, « vous avez tenu sur moi et sur une personne que ni vous ni moi n'avons le droit de nommer des propos qui ne me conviennent pas.
Vous dites ?» fit le colonel en redressant encore sa taille de géant maigre.
« Je dis que vous avez calomnié la plus respectable des femmes et que vous avez associé mon nom à vos calomnies. Savez-vous comment nous appelons cela en français ?»«
Je connais la langue française, » dit le colonel froidement, « et je vous dispense de feuilleter votre dictionnaire. »
« Je n'ai rien dit qui ne fût du domaine d'une conversation de plage. J'ai peut-être parlé, et dans l'intérêt de la santé d'une personne qui vous paraît chère, de promenades trop fréquentes au bord de la mer, le soir, quand on est souffrante.
« Eh bien, monsieur, » interrompit Solis, « je vous défends à l'avenir de vous occuper de moi et de celle dont vous voulez parler. »«
Vous me défendez ?» dit l'Américain en scandant les mots.
« Parfaitement.
De quel droit, monsieur ?»
Le colonel avait une attitude fière dont l'héroïsme, assez fortement alcoolisé, devait être arrosé de nombreux cocktails.
« De quel droit ?» fit M. de Solis.
« Du droit que je prends. »«
Oh !» dit le colonel lentement. « Ma compatriote vous tient terriblement au cœur. C'est compréhensible, elle est très jolie. »
Il relevait sa main pour se caresser la barbe de son geste machinal. Georges lui saisit le poignet, et se rapprochant de lui, les yeux dans les yeux.
« Taisez-vous, monsieur, vous êtes un lâche. »«
J'espère que vous ne l'êtes pas, monsieur, » dit le colonel en se dégageant.
« Tout à vos ordres. »«
Exactement, » fit Dixon en rejoignant sa fille qui cause avec de Bernière, celui-ci d'ailleurs ne perdant pas un mouvement de Solis et du colonel, et se doutant bien que cet aparté cachait une discussion grave.
« Oh, oh !» pensait le colonel en arrivant vers Miss Dixon.
« Arabella épousera difficilement le marquis, maintenant. Mais qui sait ?»«
On s'est chamaillé ?» demanda Bernière une fois seule avec Georges.
« Oh, presque rien. »«
Une provocation ?»«
Une explication, » dit Solis.
« Je compte sur toi.
Elle peut avoir des suites. »«
Ah, tu préviendras le docteur Farjas. »«
Eh ben, un mot à ma mère. »«
Je vais l'embrasser, pauvre femme. »«
Diable ?» dit Bernière en essayant de plaisanter.
« Tu es expéditif. Perds pas ton temps. Toute vapeur. Train express. »
À la Villa Norton, cette soirée avait été silencieuse, triste, et la journée du lendemain devait être plus inquiète encore. Soit que le colonel Dixon eût laissé échapper, au casino même, le secret de son altercation avec M. de Solis, soit qu'en s'abouchant avec ses amis, le peintre Harrison avant tous les autres, il n'eût pas demandé à ses témoins de garder le silence, soit encore qu'il eût intérêt à mêler à son nom le nom du marquis, l'incident de la veille était, dès le lendemain matin, le bruit de la plage. Et de ce bruit même, les échos devaient entrer jusque dans la Villa Norton. Madame Montgomery était venue de très bonne heure, affairée, nerveuse, et en arrivant pour prendre des nouvelles de Sylvia, le docteur Farjas éprouvait une sensation très singulière. Il lui semblait que les objets mêmes, les meubles, avait un aspect inaccoutumé, dramatique. Les choses qui ont leur malice ont aussi leur divination. Le docteur se garda bien, du reste, d'interroger Madame Norton, qu'il trouva toujours très nerveuse, mais plus résolue et comme ayant fait un effort sur elle-même. Norton était absent. Farjas se borna à une sorte d'ordonnance morale, et comme il descendait de l'appartement de Sylvia, il se heurta presque, au bas de l'escalier, à Miss Meredith, qui attendait, visiblement anxieuse.
« Eh bien, docteur, Sylvia, comment va-t-elle » demanda Eva.
« Toujours dans son état d'innervation, mademoiselle, mais visiblement plus énergique qu'aujourd'hui. On dirait que quelque émotion nouvelle l'a relevée.
une émotion, dit la jeune fille. Je ne sais laquelle. Rien de nouveau ici, fit le docteur. Rien. Il regardait Eva toute pâle et hochait la tête de son air à la fois narquois et indulgent.
Je ne vous conseillerais jamais de chercher à jouer la comédie, ma chère enfant. Vous ne sauriez pas.
Mais, docteur, si Mrs. Norton est, comment dirais-je, remontée, vous êtes-vous, au contraire, très inquiète.
Et pourquoi serais-je inquiète?
Demanda Eva, relevant sa tête brune et essayant de sourire.
Ah, ça par exemple, je n'en sais rien, dit Farjas.
Il ajouta doucement.
Peut-être, tout simplement, le bruit de ce duel. Oui, du colonel Dixon avec M. de Solis.
Et comme Eva faisait un mouvement involontaire.
Là, tout juste. Eh bien quoi, M. de Solis? Il en a vu bien d'autres. Il sait manier l'épée, tenir le pistolet. Rien à craindre pour lui.
Eva répondit, la voix lente.
Qui vous dit que je craigne quoi que ce soit pour M. de Solis?
Hein? Comment? Fit le docteur. Il attendit un moment et ajouta.
Soit. Mettons que je me sois trompé.
C'est peut-être bien, alors, le colonel Dixon qui vous intéresse.
Un mouvement d'épaule d'Eva, accompagné d'un geste où le souhait devenait une menace, lui répondit.
Le colonel, le colonel. Ah, si le sort était juste, le colonel.
Très bien,
fit le docteur, c'est ce que je vous disais.
Il était certain maintenant qu'elle pensait anxieusement au marquis, pauvre petite.
Il remarqua alors qu'elle avait un chapeau sur ses cheveux bruns et qu'elle était habillée pour sortir. Il lui demanda si elle voulait l'accompagner.
« Oui, certes, avec plaisir, docteur. »
Elle avait besoin d'air, de mouvement. Elle voulait marcher, se fatiguer, user ses nerfs. Et l'accompagnant vers la ville, le docteur la regardait du coin de l'œil, toute pâle, délicieuse. Et tout à coup, il la vit devenir très rouge et elle s'écria, en apercevant de loin quelqu'un qui venait vers eux.
« Monsieur de Solis !»
Lorsqu'il fut près de Georges, il lui tendit la main, disant «
Eh bien, mon cher marquis, je vous félicite. »
Et de quoi? Fit M. de Solis, qui avait salué Eva.
Mais on ne parle que de ça, votre rencontre avec le colonel Dixon.
Je ne me suis pas rencontré avec le colonel Dixon.
Eva, hésitante, demanda.
Alors, ce duel, c'est fini?
À peu près, répondit Georges.
Vous ne vous battez pas?
Un signe rapide du docteur fit connaître à Georges qu'il devait nier toute rencontre.
« Le duel n'aura pas lieu, mademoiselle, » dit-il en souriant. « Tout est terminé. »«
Ah, tant mieux. J'étais d'une inquiétude. »« Et tout à l'heure, vous m'assuriez que vous n'aviez pas l'ombre... »«
Ah, tout à l'heure, »
fit-elle en riant. Farjas lui prit les mains, paternellement.
« Je vous l'ai dit, ma chère enfant, la comédie, vous ne serez jamais, jamais, jamais. Allons, au revoir, mademoiselle. Mes visites à mes malades sont peut-être inutiles, mais elles sont pressées. »
Et saluant M. de Solis, il s'éloigna assez vite du côté des rues, laissant en tête à tête, à quelques pas de la plage, dans l'atmosphère matinale, Eva et M. de Solis. La jeune fille regardait le marquis d'un air joyeux, brusquement rassérénée, heureuse.
« Savez-vous que je suis très contente ? » disait-elle.
« Un duel, je trouve cela si absurde, le duel. Et quand on pense que le colonel Dixon, qui est très redoutable, paraît-il, pouvait... C'est pourtant lui, n'est-ce pas, monsieur de Solis, qui a refusé le duel?
Soyez certaine, mademoiselle, répondit Georges, que ce n'est pas moi. Après ça, il a bien fait. On me racontait qu'il avait accompli de véritables exploits pendant la guerre de sécession, et depuis contre les Indiens aussi. Oui, avec Buffalo Bill. Un héros, à ce qu'il paraît, le colonel Dixon. Moi, je doutais un peu, je vous assure. Je ne sais pas pourquoi, dit-elle en riant, mais je doutais. « Maintenant, non, je ne doute plus. »«
Pourquoi ?»«
Un homme qui a la terrible réputation du colonel et qui n'hésite pas à reconnaître ses torts est vraiment un excellent homme. Pour moi, le colonel Dixon a fait ses preuves de loyauté aujourd'hui. Car il a reconnu ses torts, n'est-ce pas, monsieur de Solis ?»«
Assurément. »
C'était d'ailleurs assez vilain d'accuser Sylvia, la bonté et l'honneur même.
« Oh, vous voyez que je sais tout. » »«
Et comme je savais que le colonel... » Lui, au tir, en vous quittant, avait cassé devant tout le monde un nombre plus que respectable de poupées. Vous concevez dans quelle transe j'ai passé la nuit. Est-ce que je vous ennuie de causer là, dans le plein air, comme disent les peintres? Je ne vous fais pas perdre votre temps, au moins.
Oh, mademoiselle, tant mieux. Vous êtes d'ailleurs condamnée à me subir un peu. Vous m'avez donné assez d'inquiétude.
Oui, oui, vous allez me trouver absurde.
Une américaine, cela ne doit pas avoir les sensibilités subtiles de vos françaises.
Eh bien, je vous voyais là, debout, devant le pistolet du colonel Dixon.
Et passé à l'état de poupée,
dit le marquis. Mais je sais mieux me défendre que les bons hommes de plâtre, mademoiselle. D'ailleurs, je suis d'avis que dans une rencontre de ce genre, le bon droit est toujours vainqueur.
Oh, une superstition.
Mieux que cela, une conviction.
Excellente, cette conviction, quand elle est appuyée sur beaucoup d'adresse.
Toujours est-il que vous m'avez joliment, oh, joliment inquiété.
Elle était charmante avec son babil joyeux, cette juvénile franchise, ce clair regard qu'elle fixait sur lui, cette cordialité de camarade qui troublait un peu, ou plutôt attirait Solis. Et il la regardait doucement, un peu étonné, comme on étudierait tout à coup un paysage à peine aperçu jusque-là.
« Je voudrais, disait-il, avoir eu plus de droit à mériter cette inquiétude-là. »
Eva souriait toujours.
« Comment, plus de droit ? C'est-à-dire avoir couru plus de dangers ?
À quoi bon, puisque le résultat est le même ? Je suis pratique, vous savez. »
Elle marchait maintenant à ses côtés, délicieuse, tout son fin visage de brune animé d'une fièvre heureuse, et le vent sur son front agitait doucement de petites mèches frisées que Georges n'avait jamais remarqué et qui était d'une coquetterie charmante. Il avait plaisir à entendre cet enfant lui parler de lui, et l'interrogeant, il lui disait
« Alors vraiment, si le colonel Dixon m'avait traité en petite poupée, cela vous eût été désagréable ?»«
Je vous l'ai dit comme je le pense. »«
Mais vous n'allez pas vous demander que je vous le redise, » fit-elle.
« Vous n'êtes plus intéressant à présent, plus du tout. » »«
Il faut donc, pour mériter votre attention, Miss Eva, être toujours exposé à un péril. »
Elle secoua la tête gentiment.
« Ah, par exemple ?»«
Je n'ai pas besoin pour aimer les gens de les savoir dans une situation extraordinaire. Je suis d'ailleurs la personne la moins romanesque qu'on puisse trouver. Et il ne me serait jamais venu l'idée, en allant avec vous porter un secours à ces pauvres ruaux, qu'on s'aviserait de découvrir je ne sais quel roman dans ce qui était une promenade de charité.
Le monde est méchant, » dit tristement M. de Solis. Il y faut sa ration de calomnie quotidienne. »
Eva fit une petite moue et dit résolument
« Oh, le monde, ce n'est pas tout le monde, le monde. Vous aviez le grand tort de faire beaucoup trop d'attention à lui.
Moi, le monde pourrait bien dire de moi tout ce qu'il voudrait.
Peu m'importerait qu'il fût mécontent de moi, le monde, pourvu que dans mon âme et conscience, je fus satisfaite de ma petite personne.
Si le colonel Dixon avait dit de vous ce qu'il a dit de Sylvia,
eh bien, je vous aurais supplié de le laisser dire, d'autant plus que nous... »
Elle s'arrêta, et Georges, complétant la pensée, « D'autant plus que je n'aurais pas eu le droit de vous défendre, n'est-ce pas ?»«
C'est encore une question, » répondit l'Américaine. « Un honnête homme a toujours le droit de défendre une honnête femme qu'on calomnie, même quand il s'agit d'une jeune fille,
surtout quand il s'agit d'une jeune fille.
Mais s'il se fût agi de moi... » C'eût été tout autre chose. Comme ce qu'on dit de moi m'est beaucoup plus indifférent que l'existence de quelqu'un pour qui j'ai de l'amitié, je vous aurais conjuré de laisser là Dixon et Miss Dixon et tous les Dixon de la terre. Ce qui m'aurait fait de la peine, ce n'est pas du tout une parole plus ou moins absurde, c'est un coup de feu du colonel.
Oh, je sais que je blesse vos préjugés belliqueux.
Notez que j'aime, j'honore, j'admire, j'adore le courage, mais voilà, je le veux bien employé.
Georges écoutait, un peu surpris, très intéressé, presque charmé par cette franchise, ce mépris exquis des préjugés, ces idées nettes d'un petit cerveau vierge, et regardant la jeune fille.
« Vous êtes tout à fait originale, Miss Eva. »
Elle répliqua, hochant la tête. « Dites excentrique, allez, ne vous gênez pas. »
« Et qu'est-ce que vous appelez le courage bien employé ?»
À son tour, elle le regardait, surprise de cette curiosité qu'elle sentait éveillée en lui, tout à coup. Et alors, elle parlait à cœur ouvert. Elle se livrait toute, et il lisait, comme en un livre inconnu, dans cette âme claire comme de l'eau de roche.
Le courage bien employé. Mais je ne sais pas, moi.
Cela ne se définit pas, cela. L'homme qui en sauve un autre, ou qui défend son pays,
ou qui voue toute son existence à une idée généreuse et utile, est-ce que je sais ?
Celui-là fait un acte de courage.
Le courage, c'est quand vous allez, où cela ? Dans quelques rizières d'Asie, chercher quoi ? Je l'ignore.
Mais une vérité, évidemment, une découverte, un progrès.
Elle s'arrêta, sérieuse.
Quand je dis chercher, fit-elle, c'est peut-être oublier qu'il faut dire.
Solis se sentit remué par le son de cette voix qui, subitement, devint triste.
Oublier, oublier qui ?
Allons, adieu, monsieur de Solis. Enchanté de savoir que cette affaire est terminée.
Elle lui tendait la main comme pour s'éloigner de lui.
Mais Georges, insistant,
vous m'avez dit qu'en voyageant, je cherchais à oublier, peut-être.
Oublier quoi ? Que voulez-vous dire ?
Elle le regarda bien en face.
Oh, je n'ai jamais de réticence lorsqu'il s'agit d'un secret qui m'appartient. Mais il s'agit du secret d'une autre personne.
Un secret ? Quel secret, Miss Eva ?
Et instinctivement, sa main cherchait à retenir la jeune fille, mais elle, essayant de rire.
Voyons, monsieur de Solis, vous voyez bien que je plaisante.
Laissez-moi, il n'y a pas de secret. Il n'y a rien.
Dieu merci, il n'y a même pas de duel.
Et s'il y en avait un ? Dit le marquis.
Toute la joie de la pauvre enfant tomba. Elle redevint aussi pâle que lorsque Farjas l'avait interrogée tout à l'heure.
Alors, fit-elle, la voix brève, ce que vous m'affirmiez il n'y a qu'un instant, devant le docteur,
regardez-moi, ce n'était pas vrai ? Vous vous battez avec ce Dixon ?
Miss Eva, je vous en supplie, pour moi, pour elle.
Ah oui, Sylvia, toujours Sylvia.
Et vous me laissiez croire que tout était fini, que je pouvais me rassurer, vous me disiez,
ah, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, si vous saviez le mal que vous m'avez fait.
Elle avait dans les yeux de grosses larmes qu'elle eût voulu dissimuler, et elle s'était un moment appuyée sur son ombrelle pour ne pas tomber. Il était stupéfait. Il avait essayé de la prendre dans ses bras, craignant de la voir défaillir, mais elle avait déjà essuyé ses yeux, fébrilement, et elle disait
« Allons, ce n'est rien, rien. Je vous demande pardon de ce petit accès ridicule, absolument ridicule, surtout en pleine rue. Vous voyez ?» C'est passé.
Qu'est-ce que vous avez à votre tour ?
Rien, je vous regarde. Je ne vous connaissais pas.
Oh, parbleu, j'ai mes nerfs aussi, comme Sylvia. Adieu.
Il l'arrêta, comprenant qu'il l'avait peinée.
Je vous demande pardon, mademoiselle.
Oh, je vous pardonne. Vous ne saviez pas.
Elle ne lui tendit même plus la main, comme tout à l'heure, et elle s'éloigna rapidement, marchant vite, se sentant étouffée, suffoquant. En arrivant à la villa, elle essaya de composer son visage. Elle se trouvait en face de Richard Norton qui sortait. Très froid, très pâle, Norton avait dans le regard une expression de mélancolie qui ne lui était pas habituelle, et Eva fut frappée de l'air de bonté triste avec lequel il l'interrogea. D'où venait-elle ? Pourquoi ce visage inquiet ?
Norton avait la sensation que le duel de M. de Solis avec le colonel Dixon effrayait la jeune fille. Mais il ne voulait ni la questionner, ni donner d'explication. Il se contenta de quelques phrases vagues, dites d'un ton paternel, et recommanda, comme Farjas eût pu le faire à Sylvia, un peu de calme et de repos. Eva monta à son appartement en essayant de paraître rassurée. Norton, lui, sortait pour aller tout droit chez Georges de Solis. Il voulait parler en homme à celui qui avait été son ami. Rencontrerait-il le marquis ?
Georges avait regagné son logis en se répétant ce qu'Eva venait de lui dire. Il éprouvait, à se rappeler les paroles de la petite américaine, une sorte de volupté particulière, bizarre. Cette franchise de jeune fille avait un charme. Il se sentait non pas hésiter, certes, l'image de Sylvia étant là, devant sa pensée, toujours présente, mais troublé. Il eût voulu, par curiosité pure sans doute, comme Bernière eût pu le faire par dilettantisme, connaître le fond même de ce cœur d'enfant. Une enfant, oui, mais si déterminée, exquise avec de petites résolutions héroïques. Puis il se reprenait à penser à Sylvia, à cette folle, mais irrésistible idée de fuite qu'il avait glissée à l'oreille de l'adorée. Une folie, soit. Ce qui était insensé parfois, n'est-ce pas la sagesse suprême ? Et il lui semblait qu'une voix intérieure, sa propre voix,
lui disait encore de partir.
Partons, fuyons, allons loin du monde, bravons ces lois, faisons-nous à nous-mêmes une loi nouvelle.
Éternelle raison que se donne la folie d'amour, mots exquis ressassés depuis que le monde est monde et que le cœur est faible, banalité charmeuse, auquel se laisse prendre le cœur des femmes, comme si certaines poésies de l'affranchissement étaient la préface courante de la chute. Tant que le monde sera monde et créera des obstacles aux passions humaines, les mêmes aspirations, les mêmes refrains mèneront au même du prix. C'est un air que chacun transpose pour sa voix.
Georges, assis dans son cabinet de travail, encombré de cartes et de livres, avait commencé, déchiré, puis recommencé pour Sylvia une lettre qu'il voulait lui envoyer, précisant plus nettement ce qu'il lui avait murmuré, glissé dans l'âme. Sa mère, entrant pour le voir, l'avait surpris, écrivant, l'œil fiévreux, et cachant brusquement un billet inachevé dans un buvard. Un moment, la marquise avait eu la tentation d'interroger son fils. À qui écrivait-il? Pourquoi se cachait-il? Mais la question indiscrète n'eut pas obtenu de réponse, sans doute. Trop femme pour ne point deviner en partie, la marquise était certaine que cette lettre furtive était destinée à Mrs. Norton. Quelle sottise peut-il bien méditer, pensait-elle? Elle l'aurait demandé, peut-être, si le domestique ne fût venu annoncer M. Richard Norton qui désirait parler à M. le marquis. La mère, subitement inquiétée, regarda son fils qui répondait très calme, souriant, pour rassurer Mme de Solis.
« Je suis charmé, faites entrer. »« Je vais vous laisser, » dit la marquise avant même que Norton fût entré.
« Mais pourquoi vient-il ici ? Une visite, il a bien le droit de me rendre une visite ?»
« Promets-moi que tu me répéteras tout à l'heure ce qu'il aura dit. »«
Que voulez-vous qu'il me dise ? » ?»«
Promets-le-moi, »
dit fermement la marquise.
« Oh, volontiers, je vous le promets. »
Richard parut un peu ennuyé en apercevant Madame de Solis, mais elle prit bien vite congé de lui, ne voulant pas être indiscrète. Et confiante en la promesse de son fils, elle eut le courage de retourner dans sa chambre sans chercher à savoir, même parmi les premiers mots de Norton, si l'Américain venait en ami ou en ennemi. La première minute de l'entretien de Richard avec son fils lui cependant tout appris. La marquise partie, Norton regarda George qui, devant la table de travail, lui désignait du geste un fauteuil et, s'asseyant, l'Américain prononça très froidement « Vous devinez pourquoi je viens chez vous ?»«
Non, » dit le marquis.
« Vous vous battez ce soir ?»
Il tira sa montre.
« Vous vous battez dans 5 heures avec le colonel Dixon ?»«
Oui, » dit Monsieur de Solis.
La rencontre devait avoir lieu ce matin. Elle avait été remise à ce soir sur la demande des témoins du colonel.
Solis répondit simplement
« Vous êtes bien informé. »«
C'est vous dire, » fit Norton impassible, « que je connais aussi la cause de ce duel. »
George regarda l'Américain. Sous leurs sourcils hérissés, les yeux gris du Yankee voulaient demeurer froids, très calmes. Une flamme les trahissait, un éclat de fièvre.
« Si vous savez la cause de cette rencontre, » répondit le marquis,
« vous savez alors qu'elle n'a rien que d'honorable pour moi et pour la personne que je défends.
En ne la nommant pas à moi, cette personne, vous montrez vous-même que vous n'avez pas le droit de la défendre. »
Le marquis essaya de sourire.
« Un honnête homme a toujours le droit de prendre la défense d'une honnêteté calomniée. »
« Non, » dit Norton, « quand, en voulant la protéger, il l'expose à une calomnie nouvelle. »
Ainsi, en face l'un de l'autre, ces deux hommes croisaient leurs regards comme ils eussent croisé une épée, et s'efforçant de rester impassible devant le mari réclamant son droit, M. de Solis répliquait
« Cette calomnie, j'ai marché droit à elle dès que je l'ai connue. »
« Eh bien, » fit Norton, « en vous battant pour une honnête femme, vous la compromettez. Moi seul, elle a le droit de m'occuper de son honneur qui est le mien, c'est-à-dire que vous ne vous battrez pas avec le colonel Dixon et que le colonel, ayant insulté Mrs. Norton, c'est à moi qu'il doit compte de l'outrage. »
Monsieur de Solis resta un moment sans répondre, puis avec un léger rictus des lèvres qui semblait souligner l'impossibilité de cette substitution d'un adversaire à un autre.
« J'ai envoyé mes témoins au colonel. La rencontre est décidée, l'heure est fixée. Je ne puis, sous aucun prétexte, ne pas me retrouver à un rendez-vous que j'ai demandé moi-même. »
« Il faut pourtant, »
répondit vivement Richard, que pour l'honneur de celle dont vous me parlez, l'adversaire du colonel Dixon soit le mari de Mrs. Norton. Pourquoi ?
Vous ne me comprenez pas,
dit Norton assez brusquement. Nous sommes ici pourtant deux hommes qui pouvons et devons nous dire la vérité tout entière. Vous vous battriez pour Sylvia parce que vous l'aimez.
J'entends me battre pour elle, moi, parce que je veux qu'on la respecte. La situation est nette, je pense.
George, très pâle, voulut répondre. C'est pour qu'on la respectât que j'ai défendu au colonel Dixon.
Et de quel droit ?
Dit Norton.
Je suis encore le mari.
Mon privilège est de m'occuper seul de celle qui porte mon nom, et tant qu'elle le portera, ce nom, je revendiquerai ce privilège. Et c'est encore le meilleur moyen, je pense, de faire taire le calomniateur.
Tant qu'elle portera votre nom ?
Oui. Que voulez-vous dire ?
Rien. Rien qui ne soit pour vous un espoir et pour elle une délivrance.
Norton, fit M. de Solis avec un accent où passait l'écho de toute l'amitié d'autrefois. L'Américain le regarda de ses yeux farouches et la voix rauque.
Ah, en vérité, vous, ne m'interrogez pas. Ne dites pas un mot de plus. Mon ami.
Le mot fit passer comme un nuage sur le visage de Norton.
Taisez-vous, au nom même, d'une amitié qui ne vous a point, paraît-il, enlevé le droit de voler l'affection de celle que j'aimais le plus au monde.
Voler ? Fit le marquis se levant vivement. Le Yankee, assis et le regardant bien en face, continuait.
Arraché, emporté, qu'importe le mot.
Ce qui est le fait, c'est la souffrance assise à mon foyer, c'est la désolation et la déception dans ce cœur gonflé et qui éclate. Et de ses poings rudes, il se frappait la poitrine. C'est la douleur, c'est la torture, c'est la séparation, c'est le divorce, voilà.
Le divorce.
Ce mot tombait là comme un coup de foudre, le divorce.
Georges n'y avait pas pensé.
Le divorce. Lui qui rêvait la liberté, Norton lui-même la lui apportait, et là, presque sous la loyale main de cet homme, dans le buvard, caché comme une arme de lâche, il y avait la lettre destinée à la femme, la lettre qui disait « Affranchissons-nous, fuyons, soyons libres. »
« Vous croyez peut-être, dit Norton avec une violente expression de souffrance,
vous croyez aimer celle que vous avez rencontrée autrefois et qui vous plaisait ? Allons donc. Je vais vous dire, moi, ce que c'est que d'aimer. C'est de vivre uniquement pour une créature adorée. Et pourtant, en voyant que l'existence qu'elle partage la torture et la tue, c'est de lui rendre cette liberté que notre loi nous permet. Et ensuite, d'emporter avec soi, pour toute consolation, le souvenir et la joie du sacrifice.
Oui, voilà l'affection vraie, l'amour vrai, le dévouement vrai.
Tout le reste, du désir, ou des phrases.
Norton, vous voulez vous battre avec le colonel Dixon parce qu'il l'a insulté ?
Plus que lui, je l'ai calomnié, moi, qui lui ai jeté au visage.
Il s'arrêta.
Ah, j'étais fou, mais la rage me secouait, et le soupçon.
Le soupçon, dit Solis.
Oui,
répondit franchement le Yankee, je vous soupçonnais, je vous accusais.
Et pourquoi ne vous aurais-je pas accusé ?
Parbleu. Vous n'étiez pas assez vil, j'en suis certain, étant mon ami, pour prendre avec la joie de mon foyer l'honneur de mon nom.
Cela, j'en suis certain, vous ne l'auriez pas fait.
Un geste rapide, un geste éperdu de Solis répondait. Pas un mot ne venant aux lèvres du jeune homme, et la pensée de la lettre infâme lui tordant le cœur.
Mais sachant qu'elle gardait au fond de sa pensée un souvenir d'autrefois, vous avez eu comme une satisfaction d'amour-propre à voir. S'il n'était pas mort, ce souvenir, s'il pouvait revivre, si cette femme n'avait pas oublié votre nom, est-ce que je sais ?
Et vous avez remué les cendres éteintes,
et que le cœur de Sylvia, qui venait vers moi lentement, touché du dévouement de toute une existence que je lui donnais, moi, à défaut d'une passion d'une heure, que ce cœur s'éloigna de moi et que j'en souffrisse, et que je devinsse jaloux et fou jusqu'à soupçonner et menacer une femme, et parbleu,
ça, que vous importait ?
Vous étiez dans votre rôle. Qu'est-ce qu'une amitié, même de frère, à côté d'un amour même d'antan ?
Et souffre, Marie, pleure, va, c'est ton lot. Et brise-toi, foyer d'honnêteté. J'aime, moi, l'amoureux, le passant, le fantôme d'autrefois. J'aime de toute mon âme, et j'ai bien, je pense, le droit d'être aimé.
Je vous jure, dit Solis. Vous êtes la passion, n'est-ce pas ?
Interrompit Norton, qui redressait sa haute taille.
La passion. Cela dit tout. Cela répond à tout, soit. Aimez cette femme, puisqu'elle vous aime.
Mais je vous le répète, et j'ai le devoir, et j'ai le droit de vous le répéter. Tant que vous ne pourrez, aux yeux du monde, être pour elle que le scandale, laissez le soin de la défendre à celui qui est le protecteur de par la loi.
Mrs. Norton est la plus honnête des femmes, s'écria Solis. C'est pour cela que je veux que personne ne se mêle de protéger son honnêteté, moi seul. Et encore une fois, vous voulez, je veux,
fit Norton,
je vous le redis nettement, que ce soit à moi, seulement à moi,
que le colonel Dixon rende raison de ses insultes. Le monde alors ne se demandera pas comment il se fait que, lorsque Mrs. Norton a un mari pour la défendre, elle trouve pour prendre en main sa cause un étranger.
Un étranger qui la vénère. Dites donc la vérité, un étranger qui l'aime. Et cette vérité que le monde, notre monde, ce fameux monde qui fait l'opinion en France, la soupçonne, cette vérité-là, et voilà Sylvia perdue.
Je ne peux pas, dit fermement le marquis, faire d'excuses au colonel Dixon.
Vous pouvez vous battre avec lui dans 8 jours pour une cause quelconque que vous imaginerez comme bon vous semblera.
Si le colonel est en état de tenir une arme après notre rencontre.
Mais ce soir, le colonel me trouvera moi sur le terrain. Montgomery s'est chargé de cela.
C'est votre volonté, dit George de Solis.
C'est mon ordre,
répondit Norton.
Et maintenant? Le marquis avait envie de tendre la main à cet homme, de lui demander pardon, de lutter de générosité avec ce roi du fer,
l'homme des dollars et des chiffres, des business et des labeurs de tâcherons, plus chevaleresque qu'un gentilhomme dans son mal sacrifice et dans l'étouffement de son amour.
Le divorce. Lui, George de Solis, lui, égoïste, avait songé à enlever Sylvia.
Et Norton la donnait. Et Norton s'immolait à elle.
Maintenant, répondit froidement l'Américain, je n'ai plus rien à vous dire.
Il sortit sans que M. de Solis eût le courage d'ajouter un mot. Le marquis la laissait partir, entendant s'éloigner les pas lourds et lents comme lassés du Yankee. Mais lorsque la marquise, très émue, ayant toute seule pensé à ces histoires de cour d'assises, où le mari, armé d'un revolver, le revolver américain, autre forme du milieu, se dresse tout à coup entre la femme et l'amant, lorsque Madame de Solis, inquiète, rentra chez son fils pour lui demander « Eh bien ?»«
Eh bien, dit Solis, ce Richard est le plus loyal des hommes. »
Et la marquise remarqua qu'à la flamme d'une bougie rouge allumée encore, Georges avait brûlé un papier dont les cendres flottaient autour du bougeoir comme des ailes noires de papillons consumés.